Il est midi, la Marseillaise sur Radio Rythme Bleu en ce 24 septembre. C'est une initiative des collectifs de résistance citoyenne à laquelle RRB s'associe. Et vous aussi, vous êtes invité là où vous êtes à chanter la Marseillaise en ce jour de rattachement de la Calédonie à la France. Une Marseillaise qui est chantée sur Radio Rythme Bleu, pain ou Willy Gattuo.
Au de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Tendez-vous dans vos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
La Marseillaise sur Radio Rythme Bleu. Merci à Willy Gattuo.
Oui, je voulais dédier ce moment important à l'ensemble des forces de l'ordre, ainsi qu'aux forces de l'ordre qui ont été blessées, et en particulier aux gendarmes Molina. Voilà, merci.
Merci Willy Gattuo. Radio Rythme Bleu, Infomag avec Nicolas Legrand.
Et dans ce journal, on reviendra évidemment sur ce 24 septembre. La nuit a été plus calme dans l'ensemble. On fera le point sur les troubles à l'ordre public dès le début du journal. En ce moment, notamment, des feux sont allumés à la déchetterie de Magenta. Quel sens revêt réellement le 24 septembre ? On reviendra sur la date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France en 1853 en compagnie de l'historien Luc Steinmetz dans ce journal. Je me mets au travail. François-Noël Buffet a pris possession de son bureau rue Oudinot. Le ministre des Outre-mer s'est attaché aux territoires ultramarins. Agir plus que communiquer et agir avant de communiquer et pas d'esbrouf, c'est la patte Barnier. Le Premier ministre a donné sa consigne à son équipe gouvernementale en Conseil des ministres la nuit dernière. Le sport et la saison d'Antoine Dupont salués, il remporte deux trophées lors des nuits du rugby. Meilleur joueur du top 14 et meilleur joueur international. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. En ce 24 septembre, les forces de l'ordre sont donc déployées sur l'ensemble du territoire. Une fête de la citoyenneté à l'occasion de l'anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France, placée sous haute surveillance. Et la soirée d'hier a été globalement plus calme. Sur la zone de Nouméa, les troubles à l'ordre public ont été en diminution par rapport aux nuits précédentes, selon le dernier point de situation du Haut-Commissariat Isabelle Pelletier.
Oui, des troubles qui sont survenus surtout dans la première partie de la nuit, entre 18h et minuit, et dans les quartiers de Tindu-Caméré, Rivière-Salée, Magenta et Vallée du Tir. Les pompiers signalent de leur côté des feux de détritus sur le secteur des Portes de Fer et celui de Montravel, où ils ont été une nouvelle fois victimes de caillassage. En fin de matinée, ils ont été mobilisés sur un feu dans une benne à Magenta. En brousse, la gendarmerie de Poum a été la cible de plusieurs jets de pierre. Des feux de broussailles auraient également été allumés à proximité de la brigade. Enfin, ce matin, aux alentours de 11h, un cortège d'une cinquantaine de personnes avec des drapeaux indépendantistes défilait à Coutio et quelques attroupements étaient aussi signalés sur Takutea. Enfin, à Païta, on vient nous signaler des feux sur le rond-point de Gadji et sur le col de la pirogue.
Et puis, en brousse, Isabelle, une maison a brûlé au centre de Kouma. C'était hier soir vers 20h.
Oui, ce logement communal inhabité a été totalement détruit par les flammes. Plusieurs mises à feu sur des déchets verts et dans le lit de la rivière ont également eu lieu au centre du village. Les départs de feu sur la commune se sont multipliés ces deux dernières semaines. Armand Durezin, la première adjointe au maire de Coumac.
Ça s'est passé un peu avant, en 19h30. Tout l'ensemble, c'est des anciens bâtiments de la météo que la mairie a racheté. Et donc, une des maisons qui était inhabitée, elle a pris feu, donc c'est à coup sûr criminel, mais la maison a été entièrement détruite.
Il y a de très nombreuses mises à feu autour de Coumac et dans le village même depuis une quinzaine de jours.
Oui. Oui, bien souvent du côté de la rivière, à l'ancien radier, mais dans sur les propriétés là-bas aussi, du côté de la rivière, et puis et en venant vers Koumac, et dans le village même. Ils ciblent des rues et ils mettent le feu, et puis même dans la rue principale, entre le cimetière et le magasin LGO, là, ça a pris feu plusieurs fois. Bon, hier soir, c'était à Wadouvalane, un tas de déchets verts, parce que c'est on est en période là où on va ramasser les déchets verts. Donc ça devient, voilà, les pyromanes, ils jouent ça et la souris avec les pompiers.
Oui, notez encore cette nuit deux feux de brousse rapidement circonscrits par les pompiers du SIVM Nord sur les bords de route à la sortie de Koumac et à proximité de l'annexe du lycée professionnel. C'est d'ailleurs sur l'ensemble de la zone VKP que les départs de feu se sont multipliés ces dernières semaines.
Alors on vient de le voir, c'est un 24 septembre très particulier cette année, 4 mois après le début des violences insurrectionnelles. On va revenir sur cette date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France en 1853 en compagnie de l'historien Luc Steinmetz, interrogé par Elisabeth Noir.
Luc Steinmetz, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce jour férié, 24 septembre, c'est la date de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France sur ordre de l'empereur Napoléon III. On parle du rattachement de la Calédonie à la France. Les indépendantistes en ont fait un jour de deuil. Depuis 2004, c'est la fête de la citoyenneté. Bref, une date chargée, une date symbolique. Si on en revient aux origines, qu'est-ce qu'il s'est passé le 24 septembre 1853 ?
Eh bien, très exactement, le navire Le Foc, commandé par le contre-amiral Février des Pointes, a abordé à Balade. Et il a débarqué sur la plage de Mahamat, qui avait été déjà celle où Cook était descendu en 1774. Et au nom de l'empereur Napoléon III, parce que la France est à l'époque sous le Second Empire, eh bien, il proclame donc le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Officiellement, le papier qui en fait date, c'est un acte de prise de possession qui a été établi dans les conditions, évidemment, du droit international de l'époque. Et les signataires de cet acte de prise de possession, il faut bien préciser les choses. Parce qu'au bas de l'acte, on voit évidemment la signature de l'amiral Février des Pointes, on voit celle des officiers à bord et qui signent en tant que témoin, et également de trois missionnaires, le père Rougeron, le père Forestier et le frère Mallet, qui était un frère mariste qui accompagnait les missionnaires. Et eux, ils ont signé en tant que témoins à l'acte et non pas partis à l'acte. Donc ce n'est pas une prise de possession, on va dire, étatique et religieuse de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, parce que c'est intéressant, c'est important, on en a parlé ces derniers temps avec notamment les incendies d'église. L'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie a eu lieu avant la colonisation.
Oui, les missionnaires protestants et catholiques, c'est en gros 1841-1843, s'agissant des catholiques à Balade, c'est en décembre 1843 que Mgr Douart et ses compagnons ont fêté la première messe. Et au moment même de l'acte de prise de possession, le 24 septembre 1853, Mgr Douart était déjà décédé. Il est mort en avril, donc quelques mois avant l'acte de prise de possession.
Un mot sur le cas particulier de l'île des Pins. Elle est rattachée à la France quelques jours plus tard.
Hein. Alors, quelques jours après, le 29 septembre, en effet, à l'île des Pins, Février des Pointes a fait également signer un acte de reconnaissance de la présence française. Et le chef Vendégout, c'était déjà un Vendégout à l'époque, bien sûr, eh bien, il a reconnu quelque sorte cette possession française, cette présence française, en se plaçant sous le protectorat de la France.
Alors, à partir de quand cette date du 24 septembre est-elle célébrée en Nouvelle-Calédonie ?
Ben d'abord, jusqu'en 1871, elle n'est pas célébrée. Est-ce que c'est le fait qu'on était sous le Second Empire encore ? Ce n'est pas vraiment évident, mais ce qui est sûr, c'est en 1870, le Second Empire tombe après la défaite de Sedan. La République est proclamée, c'est la Troisième République. Et c'est à partir de la Troisième République qu'en 1871, pour la première fois, on va fêter le 24 septembre. On va le fêter au sens où on va marquer l'événement par un certain nombre, on va dire, de manifestations, mais surtout dans le chef-lieu, hein, Nouméa. C'est pas vraiment la brousse, et puis ça sera une fête un petit peu de l'entre-soi entre les Européens, les autorités, les mondains, etc. Mais à partir de 1871, tous les ans, il y a la manifestation tout de même de ce souvenir du rattachement de la Calédonie à la France.
Avec deux grandes dates, deux grandes fêtes, c'est les 50 ans et le centenaire.
Ah oui, parce que le 24 septembre 1903, c'est le cinquantenaire de la présence française. Et alors là, ça va vraiment être une première manifestation grandiose avec, mais encore presque essentiellement centrée sur Nouméa. Et avec une participation très timide des indigènes, comme on les appelait à l'époque, parce qu'en ce temps-là, la Nouvelle-Calédonie était encore une colonie. Mais ça a été vraiment alors plus grand pour les fêtes du centenaire de 1953, parce qu'il y a un fait important qui est intervenu. La Nouvelle-Calédonie a cessé d'être une colonie en 1946. Elle est devenue un territoire d'outre-mer. Et ceux qui, indigènes, étaient depuis 1853 seulement des sujets français, mais pas des citoyens français, ils étaient nationaux français, mais ils n'avaient pas la citoyenneté, eh bien, depuis 1946, depuis la fin de la colonie, ils ont acquis la nationalité française complète avec citoyenneté. Et cette fois-ci, ils ont le droit de vote. Donc, en 1953, ils ont pour la première fois élu et fait monter au Conseil général, c'était le congrès de l'époque, neuf conseillers généraux qui étaient du monde mélanésien. Et en 1953, au moment du centenaire, des célébrations, c'est vraiment une fête totale. C'est la fête de toutes les communautés. On n'employait pas encore le terme communauté, mais c'était la fête de la fraternité des provinces françaises et de la province calédonienne. Et les Mélanésiens, en nombre, par des chants, par des danses, par des pilous, participent à toutes les manifestations. Un ministre était venu de métropole, le ministre Louis Jacquinot, qui était le ministre de la France d'Outre-mer à l'époque, et il était présent à Nouméa pour ces festivités. Et le député Maurice Lenormand, qui n'avait pas encore fondé l'Union calédonienne, parce qu'elle va être fondée seulement en 1956 officiellement, mais il est député depuis 1951, et il prononce un discours d'un patriotisme inimaginable quand on connaît l'évolution ensuite de ce parti. Il parle d'un rattachement indéfectible de la Nouvelle-Calédonie à la mère patrie, la France. Indéfectible, ça veut dire qu'il ne peut pas être défait.
Maurice Lenormand, le 24 septembre 1953.
1953.
Alors bon, après il y a une rupture, ça a mis un certain temps. À partir de quand les indépendantistes ont décidé de faire du 24 septembre un jour de deuil? Il y a eu plusieurs évolutions, hein,
oui,
entre 1953 et cette
déclaration
de jour de deuil.
Mais on va dire, bon, on ne va pas rentrer dans tous les événements politiques qui ont marqué les années 60 avec le recul de l'autonomie, etc. Mais c'est avec le début des années 70 où on voit apparaître, avec le retour de beaucoup d'étudiants mélanésiens de métropole après leurs études, ils ont connu mai 68, etc., où l'ambiance qui a suivi, ils reviennent avec vraiment l'idée d'indépendance comme but de leur action politique. Ce sont les foulards rouges de Nido Ichneslin, c'est le groupe 1878 d'Eli Poigoun, et eux, ils proclament que ce 24 septembre, c'est finalement le deuil kanak. Et à partir de là, c'est vrai qu'il va y avoir de la difficulté à réunir tout le monde autour de la fête du 24 septembre.
Pourtant, entre les deux, il y a un événement auquel vous tenez beaucoup, je sais, qui est essentiel pour vous, c'est le référendum de 1958.
Oui, parce que
donc
finalement...
Là, c'est 5 ans après le centenaire.
Hein. Cinq ans après le centenaire et une quinzaine d'années après que les Mélanésiens, même pas de 12 ans après que les Mélanésiens aient obtenu la citoyenneté. C'est important de le noter parce que le référendum du 28 septembre 1958, c'est un référendum national. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir, il fonde la Ve République et il demande au peuple, par référendum, d'approuver cette nouvelle constitution. Mais pour tout l'outre-mer, l'approbation à la constitution a également une autre valeur. En disant oui à la constitution, on dit en même temps oui au maintien de la collectivité outre-mer au sein de la République. Ça veut dire par exemple que la Guinée de Sékou Touré, parce que la France avait encore les colonies en Afrique, qui étaient devenues des territoires d'outre-mer, eh bien la Guinée de Sékou Touré a dit non et elle a immédiatement accédé à l'indépendance. La Nouvelle-Calédonie dit oui à la France. Et elle dit oui dans des proportions énormes, puisque la participation à cette époque a tourné autour de 65%, mais c'était dans les traditions de l'époque. Mais le oui a été acquis à 98%. Et sur ces 98% de Calédoniens qui disent oui, les indigènes, devenus des autochtones depuis la fin de l'indigénat, eh bien, ils disent oui à 60% de la population. Ils disent oui à 98%, mais ils constituent 60% de la population. Ça veut dire que, voyez-vous, c'est vrai que l'acte de prise de possession de 1853 a été qualifié d'acte unilatéral, en ce sens que les chefs de Balade et de la région de Puebo qui ont signé ou bien apposé d'une croix par leur présence en quelque sorte l'acte de prise de possession, ils n'ont pas tellement compris ce que voulait dire une prise de possession et la naissance, l'apparition de la souveraineté française sur leur terre. Donc, l'accord de Nouméa a bon droit à qualifier cet acte comme un acte unilatéral, c'est-à-dire d'une seule partie, sans le consentement de la deuxième partie, la Nouvelle-Calédonie. Tandis qu'en 1958, lorsque 60% de l'électorat composé de Mélanésiens, d'Autochtones, dit oui à la France à 98%, ça veut dire que la presque totalité des indigènes devenus autochtones ont également dit oui à la France. Ça veut dire qu'ils sont maintenant français, ils sont devenus citoyens français, ils s'étaient battus auparavant pour avoir cette citoyenneté, c'est-à-dire au nom de l'égalité, pour être comme tous les autres habitants de Calédonie, et par conséquent, fiers de leur citoyenneté française, ils disent oui à la France. Et en quelque sorte, ils donnent désormais un caractère bilatéral à la présence française qui avait été, en 1853, considéré comme un acte unilatéral. Donc ça fonde en quelque sorte une justification de la présence française, mais cette fois-ci avec le oui de l'écrasante majorité, pour ne pas dire l'unanimité, du peuple mélanésien de l'époque.
On avance dans l'histoire. Donc on en était tout à l'heure à la proclamation du jour de deuil pour le 24 septembre. On ne le dit pas souvent, il y a eu une levée de ce deuil kanak.
Oui, parfaitement. En 1998, après l'accord de Nouméa, eh bien, les chefferies du Nord, en particulier, ont lancé l'idée que désormais, le deuil kanak n'avait plus sa raison d'être parce que, justement, une fondation nouvelle de l'avenir de la Calédonie avait été mise en place par l'accord de Nouméa, avec cette idée de destin commun, avec la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, et qui pouvait déboucher sur un référendum d'autodétermination avec maintien dans la France ou accession à la dépendance. Par conséquent, on considérait à partir de 1998, dans une grande partie du monde kanak, que le deuil kanak n'avait plus de raison d'exister.
Il y a ensuite le 24 septembre 2003, 150 ans après, il y a un comité qui s'est créé, le comité 150 ans, avec l'édification du Mouaka, il est toujours place de la Moselle. La signification, c'est quoi? C'est plus un geste de réconciliation, là aussi?
C'est un petit peu dans le prolongement de l'accord de Nouméa, de cette levée du deuil kanak, c'est-à-dire c'est une grande fête de la fraternité, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça célèbre le vivre ensemble, le destin commun. Et le problème, c'est que ça n'a peut-être pas été accepté par l'ensemble de la population, parce qu'il commençait déjà peut-être à y avoir un petit peu des doutes sur la sincérité de la démarche.
Et alors donc depuis des années, il y a ces différences de célébration du 24 septembre. Dewegorodé essaie de mettre tout le monde d'accord en 2004 en créant la fête de la citoyenneté. C'est toujours ce qu'on est censé célébrer aujourd'hui le 24 septembre.
Officiellement, ça le reste. Mais depuis quelques années, c'est moins chaud, on va dire, autour de cette idée de célébration. Et puis, on sait aussi qu'en 2022, là, c'est tout récent, le gouvernement de M. Mapou avait mis en place un festival calédonien qui devait être une des manifestations liées à la fête de la citoyenneté. Il me semble que ça a été organisé avec pas mal de fonds, d'ailleurs, d'argent pour permettre ces manifestations, essentiellement, on va dire, artistiques, hein, il faut bien le dire. Ça va marcher en 2022 et en 2023, mais cette année, pour deux raisons. D'abord, parce que comme ça coûte de l'argent et que les finances sont à sec, le gouvernement local n'a pas eu les moyens financiers de mettre en place ce festival pour cette année. Et en même temps, les troubles causés par les milices de la CCAT depuis le mois de mai rendent la situation telle qu'on ne peut pas réunir des gens, manifester. D'ailleurs, même aujourd'hui, hein, il y a un arrêté à bon droit du haut-commissaire qui interdit les manifestations sur la voie publique.
Voilà, pour conclure, donc ce 24 septembre 2024, il ne ressemble pas du tout aux autres. Là, il y a des festivités d'aucun côté. Hein.
Voilà, c'est des festivités d'aucun côté. Il faut terminer la journée toujours dans le calme. Ça, c'est le plus important. Et je pense peut-être qu'au nom de la fraternité et au nom de l'unité de la population calédonienne, le mieux à souhaiter, c'est qu'il se termine ce soir dans la paix.
Luc Stenmetz, merci pour cet éclairage historique.
un 24 septembre commémoré à la fois, qui marque l'anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France. Cette année, la cérémonie s'est déroulée en présence de Grégory Lecru, le commissaire délégué en province sud, mais aussi de représentants de la province sud, d'anciens combattants et des pompiers de la commune. Écoutez la maire de la commune de la Foix, Florence Roland.
Cette commémoration-là permet quand même de rappeler que le territoire calédonien il est fait d'un passé complexe. Mais il est important de garder en tête que c'est aussi une opportunité de construire, de continuer à œuvrer pour un futur commun. Nous avons fait le choix de tenir cette commémoration parce qu'on souhaite aussi que cette journée soit l'occasion pour chaque Calédonien, peu importe sa culture, peu importe son passé, d'un moment de réflexion, d'un moment de dialogue aussi, parce qu'il faut être à la hauteur des enjeux qui nous attendent aujourd'hui. Et puis c'est aussi un moment pour célébrer la diversité, cette diversité qui fait la richesse de la Calédonie.
Des propos recueillis tout à l'heure par Kéline Dabouakou. Rappelons par ailleurs qu'en ce 24 septembre sous haute surveillance, les mesures de police administrative prises par le haut-commissaire restent en vigueur, à savoir le couvre-feu de 18h à 6h, l'interdiction de vente d'alcool, l'interdiction de port et de transport d'armes, ainsi que l'interdiction de rassemblement. L'État communiquera demain sur les mesures à venir. Et puis du côté des informations pratiques, je rappelle que le stationnement est interdit sur le parking de la Moselle jusqu'à demain matin en raison de cette interdiction justement de rassemblement. Et la mairie de Nouméa a aussi pris un arrêté pour interdire la circulation des engins nautiques motorisés en raison du dispositif de sauvegarde maritime mis en place par l'État. Cela concerne la bande littorale des 300 mètres au niveau de Nouville, de la baie des Citrons, de la plage de Lansvata ou encore du Château Royal. Et puis en ce 24 septembre, je rappelle que les CRC vous ont invité à chanter la Marseillaise. Elle était diffusée à midi sur Radio Rythme Bleu juste avant ce journal. Willy Gattuo, le porte-parole des collectifs de résistance citoyenne, l'a d'ailleurs entonné en direct sur Radio Rythme Bleu. Il est midi passé de 21 minutes. Restez bien avec nous. On va parler ensuite bien de cette passation de pouvoir entre la ministre des Outre-mer sortante, Marie Guévenoux, et bien le François-Noël Buffet, qui est le nouveau ministre des Outre-mer.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Bonne nouvelle, vos nouveaux magasins Jiffy sont ouverts à compter de ce vendredi 20 septembre. Rendez-vous à Ducos rue OR et à Koumac, entrée du nouveau complexe. Tout pour la déco, maison, cadeaux, plein air, jouets, vaisselle, accessoires, gadgets. Et plein d'autres choses encore à découvrir. Jiffy Koumac Ducos Centre-Ville, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h.
Jiffy des idées de génie.
Besoin d'une pause gourmande? Faites escale au 140 promenade Roger Larocque. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, pause sucrée ou after work. Venez découvrir nos nouvelles saveurs et créations à l'escale. Nous vous accueillons tous les jours de 6h30 à 20h30 pour tous vos instants. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal sur Radio Rythme Bleu avec les passations de pouvoir qui se sont enchaînées entre les anciens et les nouveaux ministres. Et c'était le cas au ministère des Outre-mer rue Oudinot, où la ministre sortante Marie Guévenoux a officiellement passé les pouvoirs à François-Noël Buffet. Elisabeth.
Marie Guévenoux est restée un peu plus de 7 mois ministre des Outre-mer, où elle avait succédé à Philippe Vigier qui avait fait un passage encore plus court rue Oudinot, 5 mois seulement. L'ancien ministre des Outre-mer a confié que cette fonction aurait été le plus grand honneur de sa vie, avec une mention particulière pour trois territoires, Mayotte, la Martinique et la Nouvelle-Calédonie.
Même si je n'en étais pas directement en charge, je ne peux pas ne pas mentionner la Nouvelle-Calédonie, qui a traversé une crise d'une gravité exceptionnelle. Une crise qui a mis en relief de graves fractures, des divisions anciennes et des enjeux cruciaux pour l'avenir de la France et sa cohésion. Je forme le vœu que ce territoire, magnifique au passé si lourd, trouve le chemin de l'apaisement. Nous nous sommes croisés régulièrement lors de travaux parlementaires et j'ai pu apprécier lors de nos différentes séances de travail en commission l'homme d'écoute et de dialogue que vous êtes. Je suis certaine que vos qualités, tout comme votre expérience d'élu local, de sénateur et enfin de président de la commission des lois du Sénat, seront des atouts précieux pour la conduite de ce ministère.
Servir son pays est un honneur. Cette opportunité est pour moi une véritable chance, a déclaré dans sa réponse François-Noël Buffet, qui a rappelé qu'il était sénateur depuis 20 ans et qu'à l'origine, ce n'était pas sa volonté d'entrer au gouvernement. Il a aussi commenté le choix du Premier ministre de rattacher son ministère à Matignon.
Je voudrais, Madame la Ministre, terminer ce propos en vous disant que le Premier ministre a décidé de rattacher, en tous les cas, de donner au ministère un ministre de plein exercice avec la volonté d'être rattaché à Matignon. C'est là aussi pour marquer, je le crois fortement, la volonté de ce gouvernement d'avoir en préoccupation première l'avenir de nos territoires d'outre-mer et de nos compatriotes. J'essaierai de remplir cette mission le mieux possible. Je conclurai volontiers ce propos par ce que j'ai appris en Nouvelle-Calédonie et par la coutume que l'on pratique et par ce principe qui est le mien et que je fais mien. Je me présente devant vous et devant cette responsabilité avec respect et humilité. Merci à vous.
Et après avoir accompagné Marie Guévenoux à sa voiture, le nouveau ministre des Outre-mer s'est brièvement adressé aux journalistes présents. François-Noël Buffet évoque l'état d'esprit dans lequel il a l'intention d'exercer ses fonctions.
Juste un mot pour vous dire d'abord l'honneur qui m'est fait et le très grand plaisir que j'ai d'occuper cette fonction. Je suis fondamentalement là pour servir notre pays et servir l'Outre-mer et nos compatriotes. Chacun sait ici qu'il y a des situations de tension. Évidemment que je les connais et que ça va être la première des priorités, bien sûr. Et puis s'inscrire aussi dans le temps long, parce que je suis intimement convaincu et profondément convaincu, et pas par opportunité depuis longtemps, que nos Outre-mer et nos compatriotes d'Outre-mer sont une chance pour la France. Je passe la porte, je vais dans mon bureau et on se met au travail. Merci à vous.
Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette passation de pouvoir, parmi lesquelles de nombreux élus ultramarins. Pour la Nouvelle-Calédonie, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, tenait à être présent pour rappeler au nouveau ministre l'urgence du dossier calédonien.
C'était important pour moi d'être là, de montrer au nouveau ministre que les parlementaires calédoniens sont présents pour démontrer l'urgence du dossier. Je crois qu'il a compris le message. L'urgence aujourd'hui pour le ministère des Outre-mer, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et puis j'en ai profité aussi pour remercier Marie Guévenoux, dont j'étais assez proche et qui a, malgré les 7 mois seulement passés au ministère des Outre-mer, travaillé pour la Nouvelle-Calédonie. Mais maintenant, voilà, M. Buffet doit reprendre le taureau par les cornes et on est là pour lui rappeler.
Le sénateur Georges Naturel était présent également. Rue Oudinot, il est satisfait que les Outre-mer soient désormais rattachés au Premier ministre.
Je sais qu'ils s'intéressent aux dossiers de l'Outre-mer, des dossiers de l'Outre-mer en général et la Calédonie en particulier. J'étais encore avec lui la semaine dernière pour aborder la situation en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'avec lui, on pourra avancer sur le dossier calédonien. Parce que ce qu'on a vécu, ce qu'ont vécu nos concitoyens depuis 4 mois, on peut le dire un peu brutalement, c'est un petit peu une notion d'abandon. Donc que le ministre de l'Outre-mer soit rattaché directement au Premier ministre, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous. On espère tous que le dossier sera pris en compte de manière transversale dans tous les ministères.
Une passation de pouvoir rue Oudinot à laquelle assistait notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits que le ministère des Outre-mer soit désormais rattaché directement au Premier ministre. Ils ne sont que 6% à dire que cela ne les satisfait pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, mercredi, après ce jour férié pour une nouvelle question du jour. Midi passé de 28 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Juste après la publicité, on s'intéressera au premier conseil des ministres du gouvernement Barnier.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de l'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les 39 nouveaux ministres et secrétaires d'État du gouvernement de Michel Barnier qui se sont donc réunis la nuit dernière à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour un premier conseil des ministres, Isabelle Pelletier.
Oui, un conseil des ministres express qui s'est terminé en moins de 25 minutes. Le président Emmanuel Macron, qui était présent, a affirmé, je cite, « Je serai là garant de l'indépendance et de la stabilité comme du bon fonctionnement des pouvoirs publics afin de vous aider à réussir dans cette mission. Un temps nouveau s'ouvre pour la vie de notre pays. » Fin de citation. Pour le chef de l'État, chaque ministre devra, je cite encore, faire preuve de courage, d'audace et d'ambition. De son côté, Michel Barnier a exhorté ses ministres à se montrer solidaires, irréprochables, modestes et respectueux de tous les partis politiques au sein d'un gouvernement républicain, progressiste et européen. pas d'esbrouf, s'il vous plaît, leur annoncer le Premier ministre.
Et les ministres qui se retrouveront vendredi sans Emmanuel Macron pour un séminaire gouvernemental. L'objectif sera de préparer la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre qui est attendue pour le 1er octobre. Et c'est donc aussi vendredi que la traditionnelle photo officielle sera prise. Bruno Retailleau, lui, a pris ses quartiers place Beauvau et remplacé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a prononcé un discours pour le moins offensif avec une feuille de route très claire, déclinée en trois axes, de l'ordre et encore de l'ordre. Bruno Retailleau qui va devoir travailler avec le nouveau ministre de la Justice, David Migaud, deux personnalités très différentes entre l'ancien sénateur LR et le socialiste nommé à la Justice. Mais Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, assure qu'il est dans un esprit constructif tout en se fixant des objectifs.
On va discuter ensemble. Le Premier ministre nous a confié une feuille de route et je pense que j'entendais les syndicats, bien sûr, il y a une question de budget. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question qui concerne l'ensemble de la chaîne pénale avec des réponses. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent.
Bruno Retailleau sur TF1 et dans le même temps, Didier Migaud, le garde des Sceaux, a lui aussi été interrogé sur France 2 sur sa future relation avec son collègue Bruno Retailleau.
J'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Il faut redonner confiance justement aux citoyens dans leurs institutions, dans la justice aussi, parce qu'il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. Donc je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, mais tout en faisant en sorte, c'est le rôle du garde des Sceaux, que l'état de droit soit respecté.
Didier Migaud au sujet de sa relation avec Bruno Retailleau. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur sera l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Un entretien à retrouver en intégralité demain soir sur Radio Rythme Bleu. L'actualité judiciaire en métropole et l'enquête se poursuit après la découverte du corps d'une jeune femme de 19 ans au Bois de Boulogne. Étudiante à Dauphine, prestigieuse université de l'Ouest parisien, Philippine venait de déjeuner à la cantine vendredi dernier pour ensuite rejoindre le domicile familial dans les Yvelines. L'alerte a été donnée par sa famille. Son corps a finalement été identifié samedi soir. Un homme étrange avec un masque chirurgical aurait été aperçu sur les lieux. Il est activement recherché. Et hier soir pour nous, les étudiants de Dauphine se sont rassemblés dans l'émotion. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
13h30 devant l'université de Paris-Dauphine, un flux ininterrompu d'élèves entre et sort jusqu'au moment où la sécurité bloque les portes d'entrée. Une minute de silence réservée aux enseignants et aux étudiants débute alors dans le hall de la faculté, moment d'émotion et de recueillement.
Il y avait une photo, on était tous en cercle et il y avait le président au milieu et il y a beaucoup de gens qui pleuraient, c'était très émouvant franchement. Et surtout en fait ce qui était vraiment marquant c'est que personne n'avait envie de partir. On était tous dans le hall et personne ne voulait partir. Le président a dit c'est terminé, on était encore dans la minute de silence.
Une minute de silence à laquelle beaucoup d'élèves voulaient participer même s'ils ne connaissaient pas la victime. C'est le cas de Nicolas, venu une fleur à la main.
Je ne la connais pas, mais on partageait le même quotidien. Elle était vendredi encore, elle déjeunait en même temps que moi dans le Crous. C'est vraiment de se dire que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, en fait. C'est vraiment ça qui choque.
Et face à l'émotion suscitée par ce drame, l'université a mis en place une cellule psychologique. Les étudiants pourront aussi toute la semaine déposer des fleurs ou des mots dans un espace dédié au troisième étage de la faculté.
Le reportage d'Alexis Fléchère pour Europe 1. Des tags « Je suis Gaza » découverts sur un mémorial de la nécropole nationale de la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Les inscriptions ont été réalisées dans la nuit de dimanche à lundi. Elles recouvrent le monument commémoratif en hommage aux jeunes résistants fusillés par les nazis en Sologne en juin 1944. La mairie a indiqué déposer plainte auprès de la gendarmerie. En bref, à l'étranger, Benjamin Netanyahou recommande aux citoyens libanais d'évacuer les zones dangereuses. L'armée israélienne a indiqué que des frappes aériennes avaient touché environ 800 cibles du Hezbollah au Liban. Beyrouth évoque 274 morts. Au même moment, les habitants de Haïfa, la troisième ville d'Israël, dans le nord du pays, se sont précipités vers les abris lorsque des sirènes d'alerte de roquettes ont retenti. Il est midi passé de 34 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une pause publicitaire avant notamment le sport et la saison d'Antoine Dupont qui a été salué à au moins deux titres.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et retour sur l'actualité en Nouvelle-Calédonie. En ce jour férié, de nombreuses familles profitent de l'aquarium des Lagons. Il a ouvert ce matin à 9h avec de nombreuses animations qui sont proposées aux petits mais aussi aux plus grands. Et ça se passe jusqu'à 16h, ambiance.
On a profité de sortir un peu de la maison avec ses fériés aujourd'hui, amener la petite se promener un peu.
J'ai pas vu les animaux de la mer depuis longtemps, mais je suis venue aujourd'hui.
On a choisi l'aquarium aujourd'hui parce qu'on est abonné et qu'on est là presque tous les jours.
Et mon petit frère, il adore les poissons, d'ailleurs moi aussi.
Nous sommes venus à l'aquarium pour notre tout premier rendez-vous ensemble. Et c'est vrai qu'on a voulu également
passer un petit moment sympa entre amoureux. En fait, le truc, c'est que je dois accoucher le 30 septembre, donc je suis descendue de Bouraille dimanche et... On ne savait pas quoi faire aujourd'hui, donc on est venu à l'aquarium.
C'est un des rares services publics et attractions qui est ouvert, donc on en profite pour venir là avec les enfants et leur faire redécouvrir un peu la Nouvelle-Calédonie et ses fonds marins.
Et ce matin, le monde de Nemo et les poissons clowns étaient au programme avec un quiz organisé pour démêler le vrai du faux entre les réelles particularités du poisson clown et les inventions scénaristiques. L'animation sera de nouveau proposée à 15h cet après-midi. Et puis il y aura aussi toutes les animations de nourrissage de poissons à 13h30 et évidemment les tortues à 15h30.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h35, la suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Meilleur joueur du top 14, meilleur joueur international de l'année, Antoine Dupont a reçu 2 trophées lors de la nuit du rugby pour saluer sa saison avec Toulouse d'un côté et son titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 de l'autre. Mais à 27 ans, la star française du ballon ovale n'est pas rassasiée.
C'est plaisant de se passer des soirées comme ça. C'est toujours dur de se rendre compte, de mesurer les choses qu'on fait. On s'entraîne au quotidien pour vivre des moments comme ça. On a eu la chance de vivre des émotions incroyables, que ce soit avec Toulouse, cette médaille olympique, j'en parle même pas. Donc oui, on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose de grand cette année. Et comme je disais, malgré ça, j'ai que 27 ans et il me reste encore des années de carrière et des choses à gagner. Donc il faut arriver à trouver cette balance-là.
Et puis j'ajoute que le trophée du plus bel essai a été décerné au Fidjien Penassier Dakuaka. C'était lors de la 16e journée du top 14. Il a traversé tout le terrain tout seul et il a donc rentré cet essai contre le Racing 92. Et enfin, un petit mot de cyclisme pour rappeler qu'un Français est champion du monde de cyclisme. Paul Sexas, 17 ans, a remporté le contre-la-montre des championnats du monde junior à Zurich. Et puis, ce n'est pas fini pour lui au niveau de la compétition puisqu'il sera aligné sur la course en ligne. Ce sera jeudi. Voilà, c'est la fin de ce journal.